9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Votre santé à votre très bonne santé. Ravi de vous retrouver le mardi. Nadia Elbouga est avec nous. Bonjour Nadia.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. Notre invité aujourd'hui s'appelle Alex Maugère. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui.
Je ne sais pas si on prononce votre nom Maugère ou Maugère.
Maugère, je l'ai fait à la Franchouillard.
Voilà, Maugère, auteur épicurien des mots et buveur de vin. Le vin a de l'importance dans votre livre. Votre premier livre que vous publiez s'appelle « Carnet de bordel », sous-titré « Désordre organisé d'un presque trentenaire chez Kiwi ». Vous avez peut-être même 30 ans maintenant. Vous aviez 29 ans quand vous avez écrit votre livre, vous êtes peut-être même maintenant 30 ans.
Même pas encore, j'échappe encore à cet âge-là, mais je suis de fin d'année, donc j'ai encore 6 mois à tenir, c'est en décembre. Donc j'essaie de profiter des derniers mois de 29 ans. Ouais.
C'est votre premier livre et vous dites avoir pris du plaisir à l'écrire. Qu'est-ce que vous avez aimé dans le fait d'écrire un livre ?
Je pense que c'est le temps de processus finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui dans l'immédiateté et on cherche l'immédiateté dans beaucoup d'actions qu'on réalise aujourd'hui, et finalement ça ramène un petit peu à l'humilité, à la patience que d'écrire un livre, parce que c'est quelque chose qui s'étend sur de longs mois de travail. Mmh. Et du coup j'ai aimé ces périodes-là avec les doutes que ça peut comporter, le stress que ça peut comporter, mais aussi tout le plaisir qui est finalement aussi lui-même étendu.
L'immédiateté qui est caractéristique de votre génération.
Exactement. Je pense que c'est relayé d'ailleurs dans plein de sujets que j'aborde, notamment les réseaux sociaux, qui sont le meilleur des exemples pour cette notion d'immédiateté. Mais ça rejoint tout ça. Ouais.
C'est d'abord un compte Instagram, hein, votre aventure. Comment est-ce qu'elle a commencé ?
C'était alors à l'époque, je parle comme si c'était il y a 10 ans, mais le compte Instagram, je l'ai créé en août 2020, et à ce moment-là, je vivais à New York. J'ai vécu 2 ans là-bas, et on sortait péniblement du confinement, même si déjà là-bas
du premier
confinement. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance de, entre guillemets, d'être aux États-Unis à ce moment-là, parce que les règles étaient beaucoup moins strictes que celles qu'on pouvait voir en France. Et je sais pas, j'avais toujours un petit peu écrit même avant ça. Et là, on sortait du confinement. À l'époque, j'écrivais aussi beaucoup pour de la musique, etc. Mais l'exercice d'écriture me manquait, et finalement, le format Instagram me plaisait bien, convenait bien à ce que je voulais faire, etc. Donc c'est comme ça que ça a commencé, juste pour un délire finalement, tout seul, et ça a plutôt bien pris.
C'est parti d'un délire, quoi.
Ouais, exactement.
Vous dites que vous aimez les phrases courtes. Est-ce qu'on écrit plus long quand on écrit pour un livre ? Est-ce qu'on doit se forcer à faire des phrases plus longues ?
En tout cas, je voulais faire un mix des deux exercices. Alors, je voulais pas perdre non plus la communauté que j'avais construite et qui s'était construite autour de moi avec le format Instagram, parce que c'est aussi la raison pour laquelle on venait me suivre sur ce compte Carnet de Bordel. Et en même temps, moi, je voulais m'essayer un autre exercice et faire des textes un petit peu plus longs. Et c'est quelque chose que je faisais de toute manière en perso, moi de mon côté, dans ma petite chambre, mais je le postais pas forcément. Mais du coup, ça me permettait d'avoir l'équilibre entre les deux.
À quel genre votre livre appartient-il ? C'est quoi ? C'est un livre de méditation ?
C'est une vraie question, mais moi je suis pas sûr et pas certain de la réponse, mais j'avais même posé la question à ma maison d'édition. Je leur avais dit, mais dans quel linéaire je vais me retrouver dans les librairies, et il m'avait dit humour. J'avais dit, écoutez, moi ça me va, mais en vrai c'est un mix de plein de choses, parce qu'il y a aussi des sujets qui sont beaucoup plus profonds, comme le sujet du viol que j'aborde à un moment donné dans un de mes textes, des sujets un petit peu qui peuvent prêter à la réflexion, peut-être même à de la philosophie un petit peu pour chacun. Un petit peu de méditation, comme vous l'avez mentionné, et puis des choses un peu plus légères, un peu plus volatiles, avec un peu d'humour, etc.
À côté de Musso, vous êtes placé.
C'est ce que j'ai demandé, en tout cas, dans le livre, à un moment donné.
Guillaume, je vous souhaite d'en vendre autant.
J'aurais pas cette prétention-là, mais en tout cas, la réflexion était fun à avoir avec ma maison.
Vous tablez quand même sur 147 000 et des brouettes.
dans une bio qui a été refusée par ma propre maison d'édition. Mais si j'arrive à ce niveau-là, déjà, je pense que ma maison sera très contente aussi. Mais on va déjà rester à un niveau qui est acceptable pour moi, à mon niveau-là.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un livre autobiographique ?
C'est une bonne question. Il y a des bribes inévitables qui sont en raccord direct par rapport à ce que j'ai vécu, etc. Mais pas uniquement. Il y a des choses aussi qui émanent directement d'observations que je peux avoir, soit des personnes que j'entoure, soit des personnes que j'imagine. J'ai eu la chance de beaucoup voyager aussi dans ma vie et je crois que j'ai toujours été conscient et en tout cas sensible à ce qui peut m'entourer, même si je le vis pas directement. Donc bon, aujourd'hui on parle beaucoup d'empathie, etc. Et inévitablement, ça s'est retranscrit dans certains de mes écrits.
On en parle beaucoup. Mais voilà, ça veut pas dire qu'on est plus empathique, c'est simplement qu'on a sorti le mot de l'armoire où il était.
C'est un mot à la mode,
mais voilà, c'est ça, un mot à la mode. Comme la bienveillance, la gratitude, l'empathie, tout ça. Mais bon, moins une société est empathique et plus elle est derrière les réseaux sociaux et plus on va essayer de vendre l'empathie. On pense avec des concepts. C'est une émission le mardi qui parle de sexualité. Et moi, je trouve que votre livre, pour le coup, parle assez peu de sexualité. S'en manque même cruellement.
Ouais, peut-être, c'est assez drôle. On avait un début de conversation sur ça avec Nadia juste avant d'enregistrer.
Est-ce que ça veut dire que les trentenaires, votre génération, on dit d'ailleurs que les générations des 20 ans et des 30 ans sont moins actifs que les générations précédentes. Est-ce que ça veut dire que finalement les trentenaires sont pépères ?
Je sais pas, et je crois en tout cas que j'avais pas envie de tomber dans le cliché un petit peu justement parfois qui est pointé du doigt sur les sujets de sexualité pour des personnes de nos âges, de nos générations qui ont accès à certaines applications aujourd'hui via les réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc. C'est des sujets auxquels j'ai des réflexions, auxquels j'en parle avec des personnes avec qui j'échange aussi sur Instagram qui ont des comptes d'écriture. Et en même temps, je voulais un petit peu recaler aussi un peu le débat et finalement rendre ça plus poétique. Donc finalement, dans mon livre, en effet, il y a quasiment pas de sexualité. Finalement, ce sont des phrases qui se baladent ici et là dans les textes, mais c'est finalement très poétique, très romantique et plutôt tourné vers la rencontre, l'amour et tout ce qui peut se passer autour de ça. Et après, charge à nous d'avoir l'imagination pour voir où tout ça peut découler. Mais...
Oui, ben c'est là où moi je suis pas d'accord avec Philippe et avec l'éditeur, parce qu'effectivement à un moment donné on vous demande de...
Moi j'essaye de faire le lien avec l'émission, hein, donc je me dis bon, si vous voulez bien Nadia, moi je m'en moque que ça parle pas de sexualité,
oui,
mais bon, là je me dis bon, c'est vrai que ça manque un peu de...
En fait, non,
de oomph, comme disent les Américains.
Je suis pas d'accord dans le sens où pour moi ça ne parle que de sexualité, justement, en fait ça ne parle pas de génitalité. Oui, effectivement, parce que à un moment donné, l'éditeur vous demande de parler de cul. Pour voilà, c'est la phrase qui est voilà.
Non.
Qui disait.
C'est parce que vous,
ça ne parle pas suffisamment de cul.
Il parle d'une lettre. C'est vous qui l'avez interprété.
Oui.
Non, enfin, je sais pas. C'est pour
il
moi,
trois,
c'était.
Il y a trois lettres.
C'est une lettre de l'alphabet.
Dans la phrase en question, dans le mot en question, pardon. Enfin, soit. Et en réalité, vous parlez de sexualité parce que c'est un livre effectivement empreint de romantisme. Vous parlez, enfin. Il y a des relations, enfin vos relations amoureuses fantasmées et réelles tout le long du livre, et en fait on est dans la sexualité du début à la fin. On n'est certes pas dans la génitalité pure et pornographique, mais votre livre ne parle que de sexualité.
Peut-être. Alors, il va falloir que je fasse attention avec tous mes lecteurs pour savoir s'ils ont cette lecture entre les lignes. Mais en effet, je pense que de toute manière, les sujets sont très conjoints. Et quand on parle de romantisme, que ce soit fait de manière poétique ou non, il y a un lien inévitable qui peut être fait. Et il y a aussi des subtilités qui se font par la seconde lecture qu'on peut avoir, nous, personnellement, quand on lit chacun de ces textes.
Paradoxalement, vous dites que vous aimez ça, mais vous n'en parlez pas.
J'ai pas dit que j'aimais ça.
Si. Si, vous le dites.
Mais
vous dites, alors, il faut que les gens s'éloignent. Vous dites, j'aime baiser.
Oui.
Donc, je sais pas comment il faut le comprendre. Ou alors, je l'ai mal compris. Mais.
Non, c'était il y a un aspect un peu provocateur aussi dans ce genre de phrase en fait que j'ai ressorti. En effet, il y a une partie d'un texte où ma maison d'édition, il y a des petites bribes de réunion éditoriale que j'ai eu avec ma maison d'édition, et c'est une réalité pour le coup, hein. J'avais eu une réunion avec la directrice d'édition qui m'avait dit Alex, c'est top les 80 premières pages que tu as écrites, mais par contre il manque une chose, il y a pas assez de sexe. Et donc j'avais réutilisé un peu ce moment de vie avec elle pour la provoquer, en fait, pour provoquer ma propre maison d'édition et dire bon ben voilà, j'ai envie de baiser, est-ce que ça te convient maintenant? Et en fait, comme si parfois le lecteur allait chercher ça et le provoquer un petit peu en disant c'est bon, t'es repu, tu l'as eu et tu l'as entendu. Et j'aimais bien aussi cet aspect provocation et puis venir le faire jongler et venir l'équilibrer avec un texte qui va suivre ou qui précède, qui est extrêmement romantique sur des touches très très poétiques.
Mais c'est intéressant justement parce que la question qui se pose, c'est peut-on vendre maintenant sans y mettre du sexe, du sexuel, du génital?
Je sais pas, mais c'est en tout cas, je pense que c'est plus complexe, ou en tout cas, je pense que le sexe vient faciliter certains échanges. Et je le vois sur Instagram, il y a certaines de mes publications que je vais faire où sans nécessairement être très sexualisé, il va y avoir un côté érotique sur l'idée de pouvoir se découvrir et découvrir le corps de l'autre dans mes écrits. Et bizarrement, c'est souvent ceux qui fonctionnent le mieux. Donc, en effet, si je voulais aujourd'hui rechercher uniquement les clics, les abonnés et faire augmenter ma communauté, je saurais comment le faire. Je le fais pas parce que je décide de donner un certain angle à mes écrits et à moi me suivre ce que je ressens quand j'écris au jour le jour. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est facile d'adapter et d'orienter.
Alors, est-ce que parce que la préface est faite par Cornichon, donc qui est Cornichon? Est-ce que c'est lui la caution finalement sexuelle du livre?
Ouais, peut-être. Et alors, c'est très drôle pour le coup l'histoire de cette préface parce que pour ceux qui connaissent pas Cornichon, donc il a un compte Instagram éponyme où justement il apporte beaucoup d'aphorismes et de textes courts sur les idées sexuelles et des blagues.
Cornichon, sexuelles. C'est aussi un site féministe d'ailleurs, par parenthèse.
C'est vrai?
Ouais.
Je savais pas.
Ouais.
Et donc du coup moi je l'ai rencontré via la sphère Instagram etc. au tout début où j'avais créé mon compte et en fait on avait des lignes éditoriales qui étaient complètement différentes mais on est devenus amis par la force des choses et on s'est rencontrés et moi c'était plus une personne qui m'a aidé au début, qui m'avait repartagé avec qui a pu en fait voir l'évolution aussi de mon compte Instagram qui m'a amené finalement à ce genre de projet aujourd'hui et c'était une manière pour moi de boucler la boucle que de lui demander de faire ma préface et de participer au livre parce que moi ça me touchait qu'il ait été là pour moi à certains moments de ma conception et en fait quand je l'ai rencontré en Belgique parce qu'il est belge c'est assez drôle mais je lui ai dit je veux que tu fasses ma préface mais si ça te va je veux que t'écrives en tant qu'Ivo et pas en tant que Cornichon et c'était aussi une manière pour moi de l'inviter à faire quelque chose d'autre qu'il fait habituellement sur Instagram pour lequel il est connu à savoir des textes parfois très cru, très provocant pour le coup, beaucoup plus que ce que je fais. Et en fait, sa communauté, je pense qu'elle méconnaît ou elle connaît absolument pas une partie de lui qui finalement est probablement la plus grosse partie de lui, qui est très très sensible et très très romantique.
Carnet de bordel, désordre organisé d'un presque trentenaire, ça sort chez Kiwi et Axel Moget est notre invité jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Voilà, et avec Nadia Elbouga, nous avons invité ce matin Alex Moget. C'est un jeune auteur qui vient de publier son premier livre, qui s'appelle Carnet de bordel, désordre organisé d'un presque trentenaire chez Kiwi. Quelle définition donnez-vous du mot bordel?
Il y a un texte qui l'explique assez bien, ma définition. Je dis souvent que c'est la définition de la vie, finalement. Il n'y a rien de constant, tout est en dents de scie. Donc forcément, on s'érafle, on s'y coupe, mais... on a toujours envie d'y revenir avec une certaine légèreté. Et finalement, si on n'avait pas cette dualité entre le gros bordel qui peut se passer dans nos quotidiens et puis les moments un peu plus sereins, on l'aimerait peut-être pas autant cette vie ou on n'aurait peut-être pas autant envie de la vivre.
Et le bordel dont vous parlez, c'est le vôtre, hein.
Pas uniquement, je pense que j'essaie de m'inspirer un peu de tout ce qui m'entoure, donc au contraire, il y a certaines parties de ce livre qui reflètent plutôt le bordel des autres auxquels je suis attentif et où je me dis finalement, je suis pas si loin de ce bordel et soit ça pourrait m'arriver malheureusement ou heureusement en fonction des définitions de ces moments-là, mais je pense que c'est un bordel qui est plus que collectif et dans lequel chacun a sa responsabilité aussi.
Et qu'est-ce que votre livre, lui, a de bordélique?
Les coupures de texte, je pense déjà. Ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai écrit le livre, j'avais, je pense, 4 documents Word différents où j'écrivais des textes longs, des textes courts, des aphorismes ici, des aphorismes là, et rien n'allait ensemble. Et en même temps, c'était le but du jeu, hein. Moi, j'avais dit à ma maison d'édition, je veux juste que ce soit un bordel et qu'on me fasse pas chier. Et je l'écris dans le livre.
Là, ils disent oui.
Ils ont dit oui. L'idée leur a plu, donc je me suis dit, c'était quand même pas mal pitché finalement l'idée de livre.
Et comment... alors comment, ouais. comment justement il est vendu par la maison d'édition?
Je sais même pas, je veux pas savoir. une fois, j'avais rencontré le directeur de la maison d'édition et je leur avais posé la question et ils m'avaient dit on va le mettre classifié un petit peu dans la catégorie humour, bien-être, mm-hmm. etc. Et je leur avais dit de toute manière vous savez ce que vous voulez en faire et je pense qu'ils essaient de le vendre avec légèreté aussi et aussi rattaché au conte qui a su séduire une certaine communauté. Mm.
Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut se lire dans n'importe quel sens, n'importe quelle page. Enfin, voilà, on peut le prendre en cours de route, à la fin, au début.
Ouais, je pense que en fait, c'est assez drôle parce qu'il y a une vraie ambivalence entre le lecteur qui ne me connaît pas personnellement, donc qui va voir le livre comme mm-hmm. ça, et en effet, demain, on ouvre le livre, on le prend à une page, on lit un texte, et on n'a pas besoin d'aller sur un autre, on peut revenir à un texte qui le précède. Et en même temps, moi, quand j'avais fait la conception du livre, à rattacher les textes les uns après les autres avec les illustrations qu'on y trouve aussi, en fait, il y a énormément de sens finalement pour moi dans l'acheminement de ce livre qui m'appartient qu'à moi, qu'on peut pas nécessairement lire, mais en tout cas, il fait sens pour moi. Moi, j'y suis sensible à cet ordre-là, et ça n'appartient qu'à moi. Et finalement, il y a ce mystère aussi que j'aime bien entretenir, où finalement, on ne sait pas trop qui je suis. Mmh. Les textes.
Faites quoi dans la vie? Parce que on sait que vous avez une occupation, mais on ne sait pas ce que vous faites.
Ça, je communique jamais dessus.
Pourquoi?
Parce que c'est assez drôle. Mais au début, en fait, mon compte Instagram, je l'ai caché à beaucoup de mes amis, à ma famille, etc. pendant très longtemps, et ça me permettait d'avoir en fait cet avatar et ce personnage. Finalement, et ça me permettait d'avoir de la liberté pour provoquer, et puis moi aussi pour me tester dans un exercice dans lequel finalement il y a de la pudeur. Je pense que j'ai jamais été aussi pudique que dans l'écriture, donc on a l'impression vraiment d'offrir un truc qui est beaucoup plus profond de soi, mmh. surtout quand c'est de la poésie, et c'est assez drôle, mais parfois je pense que c'est débile, hein, comme réflexion, mais j'avais peur d'être un peu pointé du doigt si j'écrivais des choses trop romantiques et que mes potes se foutent de ma gueule. Donc je pense que
c'est votre vrai nom quand même.
Non.
Ah non plus.
Non.
Ah, ça commence à devenir intéressant.
Vous voyez? Finalement.
Laissez-moi une demi-heure.
Ça y est, vous avez titillé ça.
Ouais, non, mais c'est intéressant.
Fibre curieuse.
C'est intéressant de les gens qui vont sur les réseaux sociaux comme ça et qui se camouflent.
Ouais, bizarre. Ouais, c'est un peu.
Bon, alors moi, qui soi-disant se dévoile et qui finalement se dévoile pas. Ça,
c'est un peu un paradoxe. C'est un peu un paradoxe. Une espèce, en fait,
de livrer le fond de sa pensée sur des sujets qui sont très intimes. Mm-hmm. À couvert.
Mais tout en étant. Voilà.
Je crois que je ne l'ai pas trop intellectualisé, ça s'est fait de fil en aiguille. Et après, il y a le côté aussi où sur Instagram, les gens se sentent tellement proches de vous, alors que finalement, pas du tout. Et du coup, je pense que c'est aussi une espèce de protection par rapport à ça. C'est j'ai ma vie et Carnet de Bordel, c'est un avatar, un personnage qui est à côté de ça. Et même s'il y a des choses qui sont très réelles et des choses qui émanent directement de mon vécu réel, mais je pense qu'il y a une espèce de distance qui est installée et qui me convient très bien.
Alors c'est marrant parce que je suis peut-être décalée, hein, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une façon de faire de la génération précédente que maintenant. Plutôt que la génération Y à laquelle vous appartenez, où on s'expose, on est qui on est, c'est généralement notre vrai nom, on sait précisément ce que vous faites, ouais. Dans la vie. Enfin, en tout cas, les Instagrammeuses et Instagrammeurs, généralement, sont facilement identifiés, identifiables, même dans leur vie personnelle. Donc, pour le coup, vous prenez une façon de faire qui appartient pas trop à votre génération.
Ouais, je crois que j'ai toujours été d'ailleurs dans cette dynamique-là. Même en fait, le compte Facebook que j'avais à l'époque était sous un autre pseudonyme, qui était devenu un de mes surnoms pour mes amis. Et en fait, je crois que je sais pas. J'ai toujours eu cette conscience aussi du fait que tout est tracé sur les réseaux sociaux et il y a une espèce de, je sais pas, de
d'historicisation.
Ouais, exactement. Et du coup, il y a un côté où les réseaux font un peu peur, en fait. Pour moi, aujourd'hui, il y a ce côté-là que vous mentionnez, où les gens se donnent entièrement face découverte avec leur vraie vie, leur vrai nom, toutes leurs informations.
Mais c'est pas leur vraie vie, c'est leur vie.
Leur vie construite.
Fantasmée.
Fantasmée, ouais, mais ouais. Sous couvert de leur propre personnalité à eux. En tout cas, ils fantasment tellement la réussite ou l'adulation de leur public ou de leur communauté qu'ils veulent en donner un maximum, voire peut-être trop de temps en temps, quitte à s'y perdre dans l'exercice.
D'ailleurs, oui, il y a un texte où vous en parlez. Hein. d'Instagram et de Fuckbook.
C'est ça, ouais, j'ai écrit un texte qui s'appelle Instagram, Twitter et Fuckbook, pour caricaturer un petit peu le comportement de certaines personnes dans cette sphère-là des réseaux sociaux. Et finalement, même à la fin, je suis autocritique parce que même si je peux porter ce jugement-là sur les réseaux sociaux, finalement, j'y suis. Donc, je suis finalement de la même graine que tout ce monde-là. Et donc, je le pointe du doigt. En fait, j'essaie de rester autocritique, mais en ayant conscience qu'aujourd'hui, honnêtement, ce monde-là, c'est un monde d'opportunités qui est infini. Et preuve en est, je suis là aujourd'hui. Et je pense que jamais j'aurais pensé un jour dans ma vie faire de la radio ou sortir un livre ou ce genre de choses. Et ce sont deux choses qui ont été amenées finalement par l'activité que j'ai eue sur les réseaux sociaux. Donc, je remercie autant ces réseaux sociaux-là que je les dénonce, et y a même un texte où je parle d'une rencontre que j'avais faite à l'époque sur Tinder, où il y a énormément de gens qui pointent du doigt ce genre d'application de rencontre. Et j'écris dans ce texte-là, en fait, je rêverais d'avoir l'adresse mail du fondateur de Tinder pour pouvoir lui écrire une lettre ouverte et le remercier finalement d'avoir pu faire cette rencontre-là, parce que sans cette application, ça n'aurait pas été possible. Et dans ce monde-là, aujourd'hui, on arrive à être multi-connecté avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés si on était uniquement dans notre petit monde.
Mais vous auriez rencontré quelqu'un d'autre dans la rue ou dans le métro, ou vous voyez.
Ouais, après.
Vous auriez rencontré des gens dans la vraie vie.
Ouais, je pense qu'après, c'est la
beauté. In real life, comme on dit.
C'est la beauté du storytelling. On aime bien se persuader que ce qu'on a, c'est un petit peu la meilleure génération ou la meilleure conception des choses. Je me dis juste qu'aujourd'hui, de toute manière, il n'y aura pas de retour en arrière. Alors, on va plus aller de l'avant et il y aura des nouveaux réseaux qui vont se développer, etc. Mais aujourd'hui, c'est là. Et moi, je suis de la génération où j'ai grandi avec et où ils sont apparus au même temps que je grandissais et que j'évoluais en tant que personne, en tant qu'adolescent, en tant qu'homme. Et c'est là. Et du coup, J'ai pas envie de critiquer cette génération finalement. J'essaie plutôt de me dire comment on peut l'utiliser comme une opportunité ou comme quelque chose de positif pour nos rencontres, nos réseaux personnels, professionnels, amicaux, etc.
Mais c'est pas un outil générationnel à la con.
Un petit peu. je sais que je l'ai dit dans mon livre, donc.
Non, mais c'est. Je le mets sous forme de question, je le mets pas sous forme d'affirmation.
Je sais pas, mais encore une fois, c'est un peu cette dualité entre, oui, parfois, je crois que c'est très dangereux, je crois que certaines personnes les utilisent d'une très mauvaise manière. Je pense que il faut protéger les enfants de ça, il faut protéger les plus jeunes de ça, il faut aussi éduquer, en fait. Je pense qu'il n'y a pas assez d'éducation. Aujourd'hui, on est à un stade où on a grandi avec et il faut les premiers essais. Aujourd'hui, en fait, on sait que c'est installé, donc je pense que même dans les écoles, il faudrait peut-être penser à avoir des éducations sur ça, comment les utiliser, comment prendre des best case scénarios et essayer de montrer les réussites qu'on peut avoir, mais aussi les gros déboires qu'on peut connaître sur les réseaux sociaux.
Après, c'est intéressant parce que justement, vous n'êtes jamais extrémiste dans vos propos. Vous contrebalancez comme les deux textes où vous dites la vie. Il faut arrêter de dire que la vie est belle. Et puis, quelques pages plus tard, vous dites il faut dire que la vie est belle. Donc finalement. Vous contrebalancez très souvent dans ce que vous proposez.
Ouais, absolument. Je crois que j'ai toujours aimé jouer entre ces dualités-là, et je crois que c'est un gros trait de ma personnalité. Où en fait, quand je vois un extrême, je vais forcément regarder l'autre. Et en effet, il y a ces deux textes-là. J'avais commencé à écrire ce texte, arrêtez de me dire que la vie est belle, bordel. Et en fait, j'étais assez dur dans ce texte-là. Et même moi, quand je l'écrivais, je commençais à me dire, Alex, ça va, les pensées noires. Mais en fait, finalement, j'ai tout de suite voulu le contrebalancer avec arrêtez de me dire que la vie n'est pas belle.
Ça part d'un sans-abri que vous croisez en bas de chez vous, voilà, un soir de Noël. Donc voilà, non, la vie n'est pas belle.
Ouais, exactement. Et en fait, c'est aussi un exercice que j'ai souvent fait dans ma vie quand j'ai des nouvelles rencontres ou des personnes que je sais pas, si j'ai un dîner, je suis assis à côté de quelqu'un à la table, je demande souvent, est-ce que tu penses que la vie est belle? Et on me répond toujours oui. Et en fait, je pense qu'ils entendent pas ma question ou qu'ils l'écoutent pas, mais je demande si la vie est belle. Et moi, si je prends mon exemple, est-ce que ma vie est belle? Personnellement, oui, je suis heureux dans ce que je fais aujourd'hui, dans
qu'est-ce que vous faites aujourd'hui. Parce que vous dites que vous êtes heureux dans ce que vous faites aujourd'hui, mais c'est justement la question de savoir, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui?
Je dirais que c'est plus dans mon équilibre de vie professionnelle, vie personnelle et vie créative avec tout ce que je fais à côté. C'est vraiment dans l'équilibre que j'arrive à y trouver dans toutes ces parcelles-là. Donc moi, si je regarde à mon échelle, oui, ma vie est belle, mais quand je regarde autour de moi avec ce qui se passe et certaines choses que je dénonce dans le livre, à savoir les viols, les agressions, les harcèlements, les dualités entre la richesse et la pauvreté, ce genre de choses, quand bien même moi, à ma petite échelle, tout va bien, je pourrais jamais avancer le fait que la vie soit belle à travers le prisme de mes yeux, en tout cas.
Alors, pour reprendre les sites de rencontres, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les personnes qui les fréquentent, c'est que vous avez la nostalgie des débuts. Et finalement, les gens qui rencontrent et qui fréquentent beaucoup les sites de rencontres aiment ce moment de la rencontre en vrai, mais c'est surtout ça qu'ils aiment, en fait, à chaque fois. C'est rejouer cette rencontre à chaque fois.
La découverte, oui.
Ouais, je pense qu'en effet, ça rejoint un peu le
cœur qui bat. On attend comment ça va être. Est-ce qu'on va avoir des choses à se dire?
Ouais, et je pense aussi que ça rejoint un petit peu la notion d'immédiateté dont on parlait un petit peu plus tôt, où je pense que beaucoup de personnes reproduisent en fait ce schéma-là parce que c'est plus facile aujourd'hui, parce qu'il y a une offre qui est juste énorme sur les applications. Et je sais pas si je suis nostalgique des débuts. En tout cas, c'est plus peut-être par rapport au chemin de vie que j'ai eu, où j'ai beaucoup voyagé encore une fois, et du coup j'ai pas pu avoir jusqu'à aujourd'hui de la stabilité nécessairement dans mes relations amoureuses. Et finalement, heureusement...
C'est pas une crise de l'engagement ?
Alors, non, absolument pas. Je vais retirer de la bouche, oui. C'est ce que j'avais demandé.
Pour le coup, la question, elle est parfaitement légitime. Et entre guillemets, j'aurais aimé répondre oui. Mais c'est pas ça pour le coup. C'est plus le fait que j'ai beaucoup bougé. Et après, c'est juste des épisodes de vie. Mais du coup, je le retrace plutôt en me disant heureusement que j'arrive à trouver de la beauté dans le côté éphémère des relations, parce que sinon je serais triste aujourd'hui. Donc en fait, je me dis qu'on peut trouver de très très belles choses dans des histoires très condensées aussi, avec énormément de respect, etc.
Alex Moget, notre invité ce matin, à l'occasion de la publication de son premier livre, Carnet de bordel, désordre organisé, d'un presque trentenaire chez Kiwi.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alex Moget est notre invité ce matin. Alex Moget n'aime pas les gens qui sortent et qui rentrent dans les cases. Bienvenue au club.
Vous êtes au bon endroit.
Et voilà, et des stéréotypes. Vous publiez votre premier livre que vous avez écrit sans contrainte, dites-vous. Ça s'appelle Carnet de bordel, désordre organisé d'un presque trentenaire chez Kiwi. Un regard sur cette génération des presque trentenaires. On vous appelle les milléniums, c'est ça?
Je crois, ouais, les millennials.
Les millennials,
ouais. C'est notre petit nom. Dans les tranches d'âge, ouais.
Et quand vous vous adressez à vous, enfin à nous, les vieux, vous dites, posez-vous les bonnes questions. Alors, c'est quoi les bonnes questions à se poser? Allez-y, je vous écoute.
Non, je sais pas. Je pense que c'est plus moi une peur que j'ai personnellement de me dire. J'essaie de faire des choix pour quand j'aurai 60 ans, ne pas regarder en arrière et pas me dire ah mince, j'aurais dû faire ça ou plus faire ça ou moins faire ça.
Mais et les bonnes questions, alors
vous paraîtrez tout autant ringard pour la génération alpha qui est la génération qui vous suit.
Ouais, c'est sûr, mais je pense que c'est justement un âge auquel on commence à prendre conscience, en fait, où nous, on a critiqué nos parents pour certaines choses qu'ils faisaient ou avaient pas fait, ou qu'ils arrivaient pas à suivre nous de nos générations. Et je me dis, un jour, je serai ce même has-been pour mes enfants ou mes petits-enfants. Donc je leur donnerai le droit de se foutre de moi et je le prendrai avec sourire.
Alors, quelle définition quelqu'un qui a 30 ans aujourd'hui donne-t-il de l'amour, le vrai?
Waouh, c'est dur. C'est assez drôle parce que j'en parle beaucoup et finalement, donner juste une définition, c'est difficile. Je crois que c'est pour ça que j'écris beaucoup de textes sur l'amour. Parce qu'il y a même parfois des choses qui viennent se contredire. En fait, je me contredis moi-même. Parce que je crois que la notion d'amour, elle évolue constamment. Ce que je pensais il y a un mois sera peut-être pas la même chose que je penserai le mois prochain. Et je pense que ça vient aussi être influé par les rencontres que l'on fait. Donc je crois que l'amour trouve une nouvelle définition dans chacune des rencontres qu'on fait et dans chacun des épisodes romantiques ou amoureux qu'on peut trouver. Et quand je dis amoureux, ça peut être aussi avec de l'amitié ou de la famille, etc.
Alors vous taclez Bec Bédé dans votre livre. Est-ce qu'un des titres aurait pu être... C'est une phrase que j'ai prise de votre livre. L'amour est juste incompréhensible.
Ah, moi, j'aurais dit l'amour dure 7 ans, mais bon.
Justement, il tacle les deux concepts, les deux points de vue en tout cas.
Ouais, c'est juste
vous
aujourd'hui.
Vous dites l'amour est juste incompréhensible.
Ouais, c'est ça. On fait beaucoup de raccourcis. En fait, en France, je trouve qu'on aime se rassurer avec des petites phrases bien formulées, un peu polies, qui nous rassurent. C'est comme un peu la notion de destin que je reprends souvent. J'ai écrit un texte récemment sur Instagram à ce propos-là. C'est en fait le destin. On adore l'utiliser pour se rassurer sur le fait que s'il y a des épisodes néfastes qui sont arrivés dans notre vie, c'était le destin, donc faut l'accepter. Et en fait si ça arrive dans des moments très heureux, on aime imaginer que le destin était un coup de pouce finalement. Donc l'amour, c'est un peu pareil. On aime dire que l'amour dure 3 ans, puis après que l'amour dure 7 ans, et que l'amour nous rend aveugle. Donc en fait ça nous empêche de nous condamner quand on fait des mauvais choix finalement,
et que le mariage nous rend la vue.
Ouais, exactement. Donc, en fait, l'amour, il est juste incompréhensible. J'arrive même pas à me comprendre moi par rapport à ce sujet-là. Et je le dis à un moment. Il y a des personnes dans la vie, et j'y assistais dans mon entourage, des personnes qui finalement restent en relation alors que intrinsèquement ce sont pas des personnes qui leur amènent des moments heureux, et à contrario des personnes qui s'évitent alors qu'il y a une espèce d'alchimie qui pourrait créer quelque chose de super joli. Donc il y a toute cette ambivalence, cette dissonance qui est créée par l'amour, que honnêtement je comprends pas, et je cherche même plus à le comprendre.
Alors c'est drôle parce que dans les textes que vous publiez sur les relations amoureuses, il y en a certains où vous parlez de rencontres que vous avez fait via Tinder, enfin une rencontre que vous avez fait via Tinder, de votre premier amour qui a duré 4 ans, et puis vous vous adressez aussi à votre futur amour qui n'existe pas encore, je sais pas, enfin en tout cas au moment où vous écriviez, et en fait vous parlez à votre hypothétique compagne à un moment donné.
Ouais, c'est ça. Et en fait, je suis assez content de ce texte, et d'autant plus que sur les premiers retours que j'ai des premiers lecteurs qui ont lu le livre, ça revient souvent comme étant le texte préféré des lecteurs. Un texte qui s'appelle Lumière, et où je dis que j'ai hâte de rencontrer la bonne personne pour que je puisse à mon tour vivre des choses dans Paris et pouvoir l'appeler Ville Lumière. Et en fait, je sais pas, c'est une manière en fait d'imaginer le futur, en fait de me rassurer moi sur le fait qu'aujourd'hui je j'ai pas la chance de partager ma vie avec quelqu'un, j'ai pas trouvé la bonne personne avec qui me poser, mais j'ai cette naïveté qui croit que ça va arriver, et le retracer en fait dans parfois même des moments très clichés de vie, sur des choses qu'on pourra potentiellement partager ensemble le jour où elle fera son entrée éminente dans ma vie, et ça me donne un peu de l'espoir, et je crois que ce texte donne à certaines personnes qui parfois se sentent perdues et qui parfois même ont la sensation qu'ils n'ont plus le droit à l'amour ou qu'ils n'ont plus cet accès-là. Mais je trouve que c'est un texte plein d'espoir pour beaucoup de personnes.
Est-ce qu'on peut dire que ce texte est finalement de la méditation amoureuse ? Parce que vous utilisez un outil qui est la visualisation finalement.
Ouais, peut-être exactement. En plus, j'utilise des phrases très très courtes et des moments très très courts et des choses en plus très facilement accessibles. À un moment, je dis on mangera un sandwich jambon beurre et mental au Trocadéro, et c'est quelque chose sur lequel on peut tous se projeter finalement. C'est facile d'aller dans le.
Si on mange du jambon.
Alors, excusez-moi.
Franchement, voilà. Après sur le Troca, on vous l'accorde.
peu importe la saveur du sandwich, mais on peut facilement se projeter avec un sandwich du coup sur le Trocadéro ou n'importe où en France ou dans le monde même pour vivre ce genre de moment à deux, en fait finalement très intime et en fait tellement facile, et finalement c'est la simplicité qu'on aime rechercher dans la relation à deux souvent.
À quoi la virilité ressemble-t-elle dans votre monde?
J'ai en effet un texte sur ce sujet-là où je pense que certaines conceptions de virilité ont un peu été erronées par les débats d'ailleurs qu'il y a eu depuis quelques années, et tant mieux, par la voix qui est portée par certaines personnes aujourd'hui, autant du côté des hommes que des femmes. Et j'aime imaginer aujourd'hui que les hommes peuvent être plus sensibles et que les femmes peuvent être plus fortes aussi. Et c'est des choses qui avaient été un petit peu coupées honnêtement dans les médias il y a 10-15 ans encore, peut-être même plus récemment, et c'est finalement ça qui fait peur. Donc aujourd'hui, moi je dis toujours, c'est assez drôle, mais la notion de romantisme aussi un peu défendu ou la poésie défendue par un homme dans les relations à deux ou dans ce genre de sujet de virilité en tant qu'homme, je pense que c'est intéressant aussi d'avoir cet angle-là.
D'ailleurs, vous le dites vous-même, vous aviez peur d'être chambré sur vos textes par vos potes si on savait ce que vous écriviez, ce que vous exprimiez d'un point de vue romantique.
Il y a ça, et ça rejoint aussi une notion en France qui est toujours un petit peu difficile à percer, qui est celle de la légitimité. J'en parle aussi dans le livre. Il y a beaucoup de choses qui font raccord à ça. Exactement, parce que en fait, en France, souvent, quand on a des projets ou quand on a des envies, il faut absolument pouvoir justifier d'une certaine légitimité, que je trouve dommage, parce que sinon, ça laisse pas la fenêtre de tir pour les personnes de pouvoir s'exprimer d'une quelconque manière. Et c'est une des raisons pour laquelle, en fait, j'ai voulu le cacher un certain moment à mes proches, à mes amis, parce qu'en fait, je pense que si j'étais venu vers eux en leur disant, ah bah regardez, j'ai fait un compte Instagram, j'aime bien écrire, j'ai fait ça, regardez, et si j'avais eu 200 abonnés, ils m'auraient dit de manière très polie, ah ouais, c'est sympa Alex, cool, vas-y, et par derrière, je sais pas, je pense qu'il y aurait toujours eu ce côté, bon Alex, ouais, il a fait son truc, c'est, il fait ce qu'il veut, mais bon, ça fonctionne pas. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, ils ont découvert mon compte quand j'avais, je crois, 30 000 abonnés et je venais de signer mon contrat d'édition. Donc finalement, quand on a eu la conversation autour d'un barbecue l'été dernier et que j'aurais raconté les un an d'histoire que j'avais eu avec Carnet de Bordel, tout ce qui s'était passé, le fait que je travaille avec beaucoup de gens, du coup, dans cette activité-là et que je fasse beaucoup de rencontres, ils s'en disent, ah ouais, c'est... Là, en fait, on m'a accordé une certaine légitimité, mais j'en voulais même pas, en fait, de cette légitimité. J'avais juste envie de leur dire, auraient été les mêmes.
Mais la légitimité, elle est passée parce que vous aviez beaucoup d'abonnés.
Peut-être, mais...
C'est pour ça vous savez, un éditeur aujourd'hui, il essaye de transformer un essai. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes lu par énormément de gens sur Instagram et que vous allez chercher une forme de légitimité en écrivant un livre, ou peut-être vous serez lu par 10 fois moins de personnes.
Ouais, absolument.
Mais et ça, c'est vrai de beaucoup de personnes qui aujourd'hui s'expriment sur les réseaux sociaux. Ils vont chercher une forme de légitimité par l'intermédiaire d'un livre. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans un livre que vous ne diriez pas sur Instagram, par exemple?
Ben, juste pour revenir à ce que vous avez dit, par rapport au fait que la maison d'édition même cherche un petit peu le côté communauté et nombre d'abonnés, finalement, en fait, mon histoire le dément, dans le sens où c'est plutôt ma maison d'édition qui a eu du flair, et à l'époque où ils m'ont contacté, j'avais 5000 abonnés, en fait, seulement. Et
là, aujourd'hui, vous êtes à 80 000.
80 000.
C'est un pari.
C'est un pari, et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'à ce moment-là, en fait, une semaine avant d'être contacté par cette maison d'édition-là, j'habitais toujours aux États-Unis. En fait, moi, j'avais commencé à écrire mon livre en me disant, je vais m'auto-éditer. Je connaissais pas le monde de l'édition. Je me suis pas dit, je vais écrire un livre et je vais chercher une maison d'édition. Je me suis dit, je vais m'auto-éditer. Parce que moi, j'aime l'idée de faire et de convertir une idée en action. Et finalement, bon, alors j'ai eu la bonne opportunité de faire la rencontre de cette maison d'édition là, et derrière ça s'est matérialisé par ce contrat et ce livre qui sort avec eux aujourd'hui. Mais ça a été un petit peu une chance aussi bien pour eux que pour moi, parce que j'étais pas du tout prédestiné, je pense, à être à 80 000 abonnés aujourd'hui et avoir cette maison d'édition.
Donc vous êtes l'exception.
Alors c'est assez drôle, mais alors je sais pas si c'est à cause de cette maison d'édition, mais ils doivent avoir le flair ils ont eu ce genre d'histoire avec plusieurs personnes sur Instagram. Ils ont réussi à les dénicher des comptes qui étaient à 10 000 abonnés, alors ce qui peut paraître beaucoup, etc., mais c'est rien aujourd'hui quand on voit le nombre de livres qui sont écrits chaque année. Et ils ont réussi à avoir des Instagrammeurs qui ont réussi à convertir avec des centaines de milliers d'abonnés. Et moi, j'ai découvert le monde de l'édition, et quand on voit le nombre de livres qui est sorti chaque année, c'est juste impressionnant. Et c'est pour ça que je le vois comme une opportunité juste incroyable d'avoir pu être signé par une maison.
Êtes-vous féministe?
Non, et j'aime pas ce mot. Je déteste le mot féministe, et d'ailleurs dans les documents d'attachés de presse de ma maison d'édition, ils avaient mentionné le mot, et je leur ai demandé de le retirer, parce que je me vois pas comme ça. En fait, le mot féminisme, pour moi, il est ce qu'il est, peu importe. On peut avoir un débat sur le féminisme. Je préfère le mot égalité, en fait, de défendre en fait que il y a pas de différence à faire. Pour moi, bien sûr, il faudrait que les femmes et les hommes soient traités de la même manière. Donc le fait qu'on vienne apporter un mot et qu'on essaie en fait de donner du pouvoir à ce mot, il y a une partie qui me dérange, parce que je me dis, on ne devrait pas avoir besoin de ça, en fait. Et le mot féminisme, en plus, aujourd'hui, je crois que c'est terrible, mais il y a tellement une partie de l'extrémisme de ce mouvement féministe qui a voulu donner du pouvoir à ce langage-là, qu'ils ont desservi au mot. Et je crois que le mot, parfois, il a une notion qui est un petit peu mauvaise, en tout cas dans certains débats, dans certains relais d'informations dans les médias.
Plus qu'un mot.
Exactement, je pense que c'est un gros mouvement, etc. Et moi, justement, je l'encourage Et je suis pour cette égalité des genres et l'égalité sur tous les sujets. Mais le mot féminisme...
En tout cas, vous n'êtes pas le mot.
Voilà, vous n'êtes tout à fait. Mais votre action et pas mal de vos propos sont féministes, puisque vous dites que vous êtes un presque trentenaire célibataire sans enfant et qu'une femme qui l'aurait écrit de la même façon aurait été fustigée parce que n'entrant pas dans les cadres que la société...
Il y a un poids de société qui est inévitable aujourd'hui et moi je suis en train de le vivre inévitablement. Enfin moi je vais prendre 30 ans en décembre. Je m'inquiète pas du tout sur le fait d'être célibataire aujourd'hui, de pas encore être papa. Par contre quand je vois dans mon entourage des femmes qui ont le même âge ou un ou deux ans de plus, etc., qui commencent vraiment à s'inquiéter. Parfois, quand on creuse un petit peu le sujet, finalement, elle ne s'inquiète pas toujours uniquement pour soit cette histoire d'horloge biologique ou juste pour elle en tant qu'individu, mais aussi parce qu'elle s'inquiète aussi d'un poids de société, de ce qu'elle représente, d'aller à un dîner seul le vendredi soir dans un groupe d'amis, ce genre de choses. Et ouais, je trouve ça dommage. Et donc, je voulais le pointer du doigt en disant, moi, finalement, je crains rien parce que je suis un homme.
Donc, une femme dans la même situation serait suspectée d'associabilité ou je ne sais quoi d'autre, alors qu'un homme, ça paraît naturel finalement.
Je sais pas si elle serait suspectée de ça, mais en tout cas, je pense que...
On lui dirait, ma fille, le magasin va fermer dans une demi-heure,
ouais,
dépêche-toi,
t'as une demi-heure.
Ouais, c'est ça. Je redoutais ce jour où la seule solution pour que je puisse passer du temps avec toi est de plonger dans nos souvenirs. C'est dans votre livre, le livre de notre invité. Il y en a une que j'aime bien, mais que je pourrais pas dire parce que ça me viendra pas en bouche. Ou alors, il faudra mettre des bips. Mais ça parle d'un animal. Alors, je rappelle le titre de du livre de notre invité. Il s'appelle Carnet de bordel, désordre organisé d'un presque trentenaire chez Kiwi. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Nadia, à mardi. Passez une très belle journée. Santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.